Le journal présenté par Thomas Schoner.
Bonjour à toutes et à tous. Un projet d'accord pour tenter de débloquer le conflit dans les prisons françaises. Plus de postes de surveillants, une détention plus encadrée des détenus radicalisés. Sur les trois principaux syndicats, deux consultent leur base. Le dernier appelle à durcir le mouvement. Donald Trump a dû annuler son week-end en Floride et pour sa fête d'anniversaire à la Maison-Blanche, c'est plutôt mal parti. Le président américain a été élu il y a un an et il doit faire face aujourd'hui à son premier shutdown, la paralysie des administrations, faute d'accord sur le budget. 850 000 fonctionnaires au total sont au chômage technique. Les deux Corées sont réunies aujourd'hui à Lausanne pour entériner leur rapprochement en vue des Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent en Corée du Sud. En Roumanie, là, on s'apprête à manifester une nouvelle fois cet après-midi contre la réforme de la justice. Nous serons sur place. Les discussions se sont achevées dans la nuit, 23h30 hier soir. La CGT pénitentiaire et l'UFAP-UNSA sont tombés d'accord avec l'administration pénitentiaire. Un projet d'accord a été trouvé. Il prévoit la création de 1100 postes de surveillants de prison en 4 ans. Autre revendication en ce qui concerne les détenus radicalisés, le texte prévoit un régime de détention particulier, une étanchéité, je cite, de la gestion des détenus les plus dangereux. Bonjour David Ravier.
Bonjour Thomas.
Le mouvement de grogne a commencé en début de semaine. Lundi, on a recensé ensuite plusieurs agressions de surveillants. Le ton a monté, est monté progressivement au fur et à mesure de la semaine. Ce projet d'accord va-t-il apaiser les esprits ?
C'est encore trop tôt pour le dire, mais c'est en tout cas ce qu'espère la chancellerie. Pour l'instant, la CGT et l'UFAP-UNSA, deux des trois principaux syndicats dans les prisons, se laissent le temps de la réflexion. Ils sont en train de consulter leur base pour savoir si l'accord leur convient ou pas, ce qui déterminera la marche à suivre dans les prochains jours. De son côté, Force ouvrière, qui n'a pas participé aux discussions, trouve que le texte ne va pas assez loin puisqu'il ne prend pas en compte la question de l'augmentation des salaires. Le syndicat appelle donc l'ensemble du personnel surveillant à ne pas reprendre le travail tant que la situation ne sera pas favorable.
Et on parle embauche, on parle salaire, mais est-ce qu'à la base, il n'y a pas aussi le problème du manque de place dans les prisons françaises ?
Malheureusement, oui, puisque même si le nombre de surveillants pénitentiaires venait à augmenter grâce à cet accord, le nombre de places pour les accueillir resterait le même. Au 1er décembre dernier, on dénombrait 59 165 places de prison sur le territoire pour un peu plus de 69 000 détenus, dont 1500 d'entre eux dormant sur un matelas à même le sol. Une situation épinglée cette semaine par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui appelle la France à redoubler d'efforts pour améliorer ses conditions de détention. Un projet visant à fournir 15 000 places supplémentaires a pourtant déjà été lancé en 2016 par l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, mais il avance très lentement et ne devrait pas être terminé avant 2027. Enfin, rappelons que dans sa loi pénitentiaire de 2009, la France s'était engagée à fournir une cellule pour chaque détenu d'ici à 2020. Mais pour l'instant, seul un tiers des prisonniers bénéficient d'un espace individuel.
David Ravier, merci beaucoup. FO, vous l'avez entendu, veut durcir le mouvement. Pour la deuxième journée consécutive, ce sont les gendarmes qui gèrent la prison de Borgo, en Corse, au sud de Bastia. Une centaine de surveillants se sont rassemblés ce matin devant l'établissement. Sachez par ailleurs que le détenu poursuivi pour avoir frappé cette semaine une surveillante de la prison de Tarascon vient lui d'être condamné en comparution immédiate à 4 ans de prison ferme. Sébastien Lecornu s'est finalement rendu ce matin à la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin. Le secrétaire d'État a inauguré hier le comité de pilotage qui va devoir régler la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire de France. Il avait prévu de se rendre initialement dans la foulée à Fessenheim avant de se raviser. Des salariés de la centrale s'étaient réunis devant le site avec des banderoles. Fessenheim, c'est 850 salariés sur place, 330 emplois en sous-traitance et 2000 emplois indirects. La CIPA, l'association historique de lutte contre Notre-Dame-des-Landes, annonce que le nettoyage de la route des chicanes débutera lundi matin. La D280, c'est une des routes qui traverse la ZAD. Le Premier ministre a exigé qu'elle soit rendue à la circulation. Par ailleurs, les travaux à Nantes-Atlantique débuteront avant la fin du quinquennat. C'est ce que promet là aujourd'hui Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement dans Ouest-France. L'actuel aéroport de Nantes va être aménagé. Les pro-aéroports ont toujours dit que ces travaux allaient prendre beaucoup plus de temps, 10 voire 15 ans en cas de recours selon le syndicat mixte aéroportuaire, la structure qui regroupe les collectivités pro-NDDL. Dans les Antilles françaises, 4 mois après le passage de l'ouragan Irma, les écoles publiques de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont perdu 20% de leurs élèves, un élève sur 5 qui n'est pas retourné en classe selon les chiffres du rectorat. Face aux dégâts provoqués par l'ouragan, des familles ont quitté les deux îles, plus de 9 850 élèves étaient attendus à la rentrée. Ils sont 7 950 aujourd'hui à assister aux cours. Depuis 6 heures ce matin, minuit, heure de Washington, 850 000 fonctionnaires américains sont au chômage technique. C'est le shutdown. Aucun compromis n'a été trouvé la nuit dernière au Sénat pour boucler le budget et donc pour payer ces milliers de personnes qui travaillent dans les administrations fédérales. Donald Trump, qui fête aujourd'hui son premier anniversaire à la tête du pays, accuse les démocrates de prendre les Américains en otage. Il les accuse également à l'instant dans un tweet de faire passer les migrants avant l'armée. Les explications à Washington. Tonne de Grégory Phillips.
Combien de temps ce shutdown va-t-il durer ? En 2013, sous Obama, les administrations avaient été fermées ou partiellement fermées pendant plus de 2 semaines, 16 jours, et environ 850 000 fonctionnaires s'étaient retrouvés au chômage technique et surtout sans salaire. Cette fois encore, les conséquences devraient être identiques : fermeture des parcs nationaux, des musées, de certaines agences fédérales. En fait, seuls les services jugés essentiels sont maintenus : l'armée, les opérations militaires ou encore la poste. Mais dès lundi matin, beaucoup d'administrations et d'agences fédérales devrait être fermé ou fonctionner au ralenti. Sauf évidemment si démocrates et républicains trouvent un accord pendant le week-end. Donald Trump, qui devait partir en Floride pour fêter le premier anniversaire de son arrivée au pouvoir, reste à la Maison-Blanche pour suivre la situation.
Donald Trump à la Maison-Blanche pendant que son vice-président Mike Pence débute lui une tournée au Proche-Orient. Mike Pence qui se rend en Égypte, en Jordanie et à Jérusalem, reconnue capitale d'Israël par Donald Trump. Les Palestiniens ont fait savoir qu'ils allaient boycotter cette visite. Il n'y aura donc pas de rencontre avec le président Mahmoud Abbas. La diplomatie, elle passe aussi parfois par le sport. Les deux Corées vont discuter aujourd'hui à Lausanne des Jeux Olympiques d'hiver qui vont se dérouler en Corée du Sud dans une vingtaine de jour. La Corée du Nord y participera. Tout a été discuté, rediscuté au niveau politique. Les délégations aujourd'hui règlent les détails sous les regards bienveillants des membres du CIO, le Comité International Olympique. Il pourrait y avoir par exemple une équipe de hockey féminine binationale. Et ce n'est pas que de la com, selon Joël Bouzou. Il préside l'organisation Peace and Sport.
La première chose qu'on peut dire, c'est que quand les gens ne veulent pas la paix, ils la font pas. Par contre, quand on arrive à les rapprocher, on arrive aussi à ce que des échanges aient lieu. Moi, je peux vous parler de la région des Grands Lacs en Afrique, entre Rwanda, Congo et puis Burundi. Un endroit où il y a eu un génocide, on a des jeux le long des frontières en permanence. Et les communautés qui étaient divisées auparavant ont l'opportunité de se rencontrer à travers le sport, qui est un langage universel et neutre. Ça crée du dialogue et ça permet à des points de vue d'être développés et aux tensions d'être apaisées. Ça, c'est la réalité. Alors, est-ce qu'on peut le faire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ? Le fait que le geste soit fait, c'est quelque chose d'important. Le fait qu'il n'y ait pas de boycott aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'important. Après, aux diplomates aussi de travailler et d'utiliser le sport à bon escient.
Joël Bouzou de l'organisation Peace and Sport avec Matteo Maestracci. L'armée turque poursuit ses frappes contre le canton d'Arfin en Syrie, un canton contrôlé par les Kurdes. L'armée affirme avoir bombardé la zone en état de légitime défense. Ankara voit dans cette milice kurde qui contrôle Arfin la branche syrienne du PKK, considérée comme une organisation terroriste par la Turquie. Une opération de plus grande ampleur est imminente. Le président Recep Tayyip Erdogan indique à l'instant que la Turquie a de facto lancé une opération terrestre, donc en Syrie. Le gouvernement roumain va-t-il finir par plier sous le poids de la rue ? Des dizaines de milliers de personnes sont encore attendues cet après-midi dans les rues de Bucarest pour une manifestation contre la réforme judiciaire lancée à l'automne dernier. Un texte qui prévoit de réduire les compétences du parquet anticorruption, le DNA. L'État aurait également l'obligation d'agir en justice contre les magistrats qui ont commis une erreur judiciaire. La Commission européenne a dénoncé cette réforme. L'opposition roumaine demande l'avis de la Cour constitutionnelle. En attendant, la société civile continue de se mobiliser. Paul Gozizian.
Cet après-midi, dans les rues de la capitale roumaine, entre 50 000 et 150 000 manifestants vont battre le pavé. Difficile à prévoir le nombre exact, puisque pour la première fois, plusieurs milliers de personnes de tous les coins du pays et même de l'étranger vont faire le déplacement à Bucarest. De surcroît, derrière cette mobilisation se trouve une simple page Facebook qui fait depuis 2 ans la promotion d'une implication non violente de la société civile dans les affaires du pays. Son animateur, Florin Baditsa, est un jeune homme aux cheveux longs, pas encore dans ses 30 ans.
Si nous sommes unis, ce Parlement ne pourra pas valider ces lois. Avec leur gouvernement de marionnettes, qui n'a aucune légitimité, ils ne pourront pas modifier les lois de la justice. Des modifications qui, de toute façon, ne sont faites que dans leur seul intérêt.
Quel que soit le nombre de manifestants, les réformes sont susceptibles de passer. Elle constitue, au dire des spécialistes, une atteinte sans précédent à l'indépendance de la justice depuis l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne en 2007.
Les précisions à Bucarest, en Roumanie, de Paul Kosygian pour France Culture. France Culture, il est bientôt midi 40. La bulle économique, Angela Merkel et Emmanuel Macron étaient tous les deux hier soir à l'Elysée pour parler de l'avenir de la zone euro. Marie Viennot va vous expliquer pourquoi vous êtes concerné, plongé dans les méandres de l'Eurogroupe.
La bulle économique, Marie Viennot.
Bonjour, il y a un sujet aussi vieux que l'euro mais qui en ce moment reprend des couleurs, la réforme de l'Eurogroupe et de l'Union économique et monétaire. Cela peut vous sembler technique, ça l'est, mais vous êtes concerné car derrière ce sujet, il y a une des failles démocratiques de la construction européenne. L'Eurogroupe, c'est la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Quand l'euro a été créé, tous les pays de l'Union européenne étaient censés y adhérer à terme. On n'a donc pas réfléchi au fonctionnement de ce groupe car son existence devait être temporaire. En 2008, un protocole additionnel au traité de l'Union européenne entérine l'existence de l'Eurogroupe, mais continue de le décrire comme une réunion informelle. Un an plus tard, en 2009, éclatent les crises des dettes européennes. Portugal, Grèce, Irlande sont au bord du gouffre, la zone euro est en danger. L'Eurogroupe doit alors régler des problèmes capitaux, alors que rien ne dit comment il doit discuter, ni décider, ni voter. Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec débarqué par Alexis Tsipras en 2015, décrit l'Eurogroupe comme un fantôme bureaucratique. Il est ici avec Noam Chomsky. C'est en dehors du cadre des lois européennes, explique-t-il. Mais après l'Eurogroupe, il y a un ECOFIN, la réunion de tous les ministres de l'UE. Et l'ECOFIN, lui, existe. Donc, il entérine, sans discussion, tout ce que l'Eurogroupe a décidé. Il n'y a pas de débat. Sur cette partie de ses propos, Yanis Varoufakis n'est démenti par personne. En pratique, il est vrai, l'Eurogroupe décide au consensus, mais qui domine les discussions ? Pour le savoir, il faudrait pouvoir lire les comptes rendus des réunions, mais hormis le dernier livre de Yanis Varoufakis ou des fuites qui montrent l'ascendant total du ministre des Finances allemand, aucune minute de l'Eurogroupe n'est publiée. À la Commission européenne, on plaide pour qu'elle le soit. Plus de transparence, dit un fonctionnaire européen, cela éviterait que des ministres disent à l'extérieur de l'Eurogroupe le contraire de ce qu'ils ont dit en réunion. À la Commission, on plaide aussi pour un ministre des Finances de la zone euro, sorte de super-commissaire permanent, garant de l'intérêt européen et responsable devant des députés européens, eux aussi, réunis en zone euro. Pour le moment, en effet, malgré l'importance des décisions qu'il prend, l'Eurogroupe ne rend de compte à personne. La Grèce a surtout beaucoup trinqué, mais pour vous donner un exemple français, il y en a plus dans la version web, quand l'Eurogroupe décide en 2010 de créer un fonds de 750 milliards d'euros pour aider les pays en difficulté de la zone euro, il conduit l'État français à garantir ce fonds en cas de difficulté à hauteur de 111 milliards. La somme n'a rien d'anecdotique. C'est un quart du budget de l'État français. Depuis une semaine, l'Eurogroupe a un nouveau président, vous l'entendez, le ministre des Finances portugais Mario Centeno. Une page se tourne. Il n'y a pas en ce moment de crise à gérer et cet ancien universitaire sans étiquette politique est donc chargé de mener à bien les réformes que tout le monde appelle de ses voeux. « Si rien ne bouge », avait dit Emmanuel Macron quand il était encore ministre, « il n'y a plus de zone euro dans 10 ans ». Alors on parle d'un budget commun, d'un fonds monétaire européen, de mutualisation de la garantie des dépôts bancaires. Tous ces sujets vous concernent, car plus simplement, on parle là de solidarité financière entre États de la zone euro et d'un plus grand fédéralisme. Un accord est cependant loin d'être trouvé. À Mario Centeno, la lourde tâche de rendre possible un consensus, l'occasion pour lui de montrer qu'il n'a pas usurpé son surnom de Ronaldo de l'Eurogroupe. Et s'il arrive à trouver ce consensus, on pourra réellement dire de lui un jour « Can you believe the genius of this man ? » Quel génie ! Cet homme est incroyable !
Marie qui vous parlait de Ronaldo, le journal L'Équipe ne cherchez pas n'est pas sorti en kiosque aujourd'hui. Les salariés sont en grève pour protester contre les suppressions de postes annoncées par la direction. Le romancier italien Paolo Cognetti reçoit le prix François Sommer pour son livre Les 8 montagnes, publié chez Stock. C'est une histoire d'amitié entre deux enfants dans le Val d'Aoste. Le prix Sommer récompense les ouvrages qui renouvellent la pensée sur les relations entre l'homme et la nature. La météo pour cet après-midi, c'est encore de la pluie avec quelques éclaircies autour de la Méditerranée. Plusieurs départements, 18 au total, sont en vigilance orange avec des risques de crues dans l'Est, mais aussi dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne et la Corrèze. Il faut y ajouter une vigilance neige-verglas dans les Alpes et une vigilance au vent en Corse, sur le littoral du Languedoc-Roussillon et sur la Côte d'Azur. Bientôt 12h45, le journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon. C'est Alex Dang qui est à la technique ce midi.